VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition du 30 septembre 2015 avec vous Nathalie Barge et Eric Manirakidza. À la une ce soir.
Flambée de violence à Bangui, l'experte indépendante de l'ONU sur la Centrafrique, Marie-Thérèse Keïta Bokoum, dit craindre une guerre civile.
Et suite à son départ précipité de New York et son escale au Cameroun, la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza est arrivée aujourd'hui à Bangui.
Je ne peux que remercier très fortement mon homologue du Cameroun et demander de continuer à nous accompagner dans ces moments difficiles.
Burkina Faso, l'armée loyaliste a repris le contrôle de la situation sur la caserne du RSP. Le général Diendéré se serait réfugié dans une ambassade.
Le gouvernement ivoirien indemnise les victimes de l'ancienne crise post-électorale.
Ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde. Regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau.
Maria Toukone, la responsable de l'opération.
Syrie, première frappe aérienne russe en coopération avec l'armée syrienne. Moscou présente aujourd'hui à New York un projet de résolution antiterroriste.
Une première à la haie, un djihadiste malien jugé devant la CPI.
7 morts et 50 blessés en Chine dans des explosions provoquées par des colis piégés.
Et 6000 personnes arrivées en Europe par la mer ce mercredi, portant à près de 530 000 le nombre de réfugiés par la voie maritime. Aujourd'hui, une femme et un enfant sont morts dans un naufrage au large de la Grèce.
Dans des minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Centrafrique, des barricades érigées par des manifestants ce week-end à Bangui ont été levées aujourd'hui. Les manifestants exigent sa démission alors que les élections prévues en octobre vont devoir être reportées une nouvelle fois. L'experte indépendante de l'ONU sur la Centrafrique, Marie-Thérèse Keïta Bokoum, a déclaré à Genève craindre une guerre civile en Centrafrique suite à une recrudescence de la violence depuis le 26.
Les tirs ont été plus intenses dans les quartiers nord. Plusieurs accrochages ont été signalés entre les soldats de la MINUSCA et des hommes armés difficiles à repérer. Les casques bleus appuyés par un hélicoptère de combat de la Sangari sont repoussés violemment à chaque occasion ces raids. Situation qui vient augmenter le nombre des victimes car on déplore des morts et des blessés par balles dans certains quartiers. Jusqu'en début de soirée, la situation était encore volatile et la tension loin de chuter. Dans la nuit de mardi à mercredi, les nouveaux affrontements opposant hommes armés de PK5 aux anti-balaka dans le 5e arrondissement ont fait de nouvelles victimes et d'énormes dégâts matériels. Sur le terrain, les pillages se sont poursuivis toute la nuit et même ce matin dans les locaux de certaines organisations humanitaires. La plupart des voies sont libérées, mais la circulation n'a pas encore repris. Le grand rassemblement de la société civile prévu aujourd'hui, place des martyrs, a été reporté pour éviter des débordements selon les organisateurs. Vu la dégradation du climat sécuritaire, le président du Parlement provisoire, Alexandre Ferdinand Guindé, a annoncé une réunion d'urgence des parlementaires ce jeudi pour statuer sur les différentes revendications, dont celle de la société civile. La société civile a formulé 11 points de revendication, parmi lesquels le redéploiement sans condition des forces armées centrafricaines et la stricte application du mandat de la MINUSCA. Par ailleurs, ces violences à Bangui ont ravivé des tensions dans certaines régions du pays. À Bombari, 3 personnes ont été tuées mardi, alors qu'à Kagabandoro, plusieurs milliers de personnes ont fui leurs habitations pour se réfugier à la base de la MINUSCA. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et les récents événements de Bangui ont contraint la présidente intérimaire centrafricaine, Catherine Samba-Panza, à interrompre sa participation à la 70e Assemblée générale de l'ONU ainsi qu'à une réunion spéciale sur son pays à New York. En route pour Bangui, Madame Samba-Panza s'en est expliquée lors d'une escale au Cameroun.
J'étais allée à New York pour prendre part à la 70e Assemblée générale des Nations unies, mais surtout pour prendre part à un sommet spécial organisé sur la République centrafricaine afin de mobiliser toute la communauté internationale pour identifier des priorités, mais surtout mobiliser des ressources afin de faire face à ces priorités. Il s'agissait d'une réunion particulièrement importante à laquelle tous les partenaires techniques et financiers devaient prendre part pour nous accompagner. Malheureusement, à partir d'un fait divers, nous avons connu les événements dramatiques qui se sont passés à Bangui. En tant que chef de l'État, il était normal que je raccourcisse mon séjour et que je revienne, reprendre les choses en main, appeler les Centrafricains au calme et essayer surtout de recoller la cohésion sociale qui a été mise à mal à partir de cet événement malheureux. Le Cameroun a effectivement toujours été à nos côtés, ne serait-ce que pour nous aider sur le corridor Bangui-Douala, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de la République centrafricaine à travers la mise à disposition d'une importante troupe camerounaise et puis surtout à travers un appui conséquent pour nous accompagner dans le processus électoral. Je ne peux que remercier très fortement mon homologue du Cameroun et demander de continuer à nous accompagner dans ces moments difficiles.
La présidente centrafricaine Catherine Samba Panza au micro de notre correspondant à Yaoundé, Edwin Moki Kinzeka.
Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, est attendu au camp en Abakoum 2 pour y rencontrer les militaires qui ont monté l'assaut contre les ex-putschistes de la garde présidentielle, dont le chef Gilbert Diendéré s'est réfugié dans une ambassade. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
Actuellement, je suis au ministère de la Défense à quelques encablures à 50 mètres de ce qui était le camp Abakoum 2, le camp du RSP. On attend l'arrivée du président de la transition qui doit rencontrer les militaires qui ont lancé l'assaut hier sur le camp du RSP. À partir de ce moment, certainement qu'on aura une idée, une sorte de bilan de l'assaut en fait. Donc, ce camp-là, ce ministère de la Défense, là où je suis actuellement, c'est une zone visiblement hier, personne n'avait idée d'IRC qui n'était pas militaires. Les militaires loyalistes continuent de ratisser pour voir si quelques éléments du RSP n'ont pas pu échapper et qui seraient dans la nature.
Où se trouve Diendéré?
Le gouvernement a fait un communiqué confirmant qu'il est dans une représentation diplomatique. Mais déjà hier, au Ouaga, la rumeur a donné la précision à l'ambassade du Vatican à Ouagadougou. Et cette ambassade est pratiquement à une centaine de mètres de la présidence du Faso, le palais de Kossiam. Donc,
comparution ce mercredi devant la Cour pénale internationale d'un chef d'un groupe islamiste malien soupçonné d'avoir dirigé la destruction de mausolées à Tombouctou en 2012. C'est une première pour la CPI. Claire Morin-Gibor.
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste à comparaître devant la CPI, le premier suspect arrêté et poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Doté d'une épaisse chevelure frisée, d'une barbe et de lunettes rectangulaires, le suspect, habillé d'un costume bleu foncé très classique, a préféré s'adresser en arabe à la Cour. Mon nom est Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, je suis de la tribu Touareg Al-Ansar, je suis né il y a environ 40 ans, a-t-il dit au juge. Selon l'accusation, M. Al-Mahdi était un des chefs d'Ansardine, un groupe islamiste radical associé à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est accusé d'avoir dirigé la destruction de 10 édifices religieux dans la vieille ville de Tombouctou, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La CPI avait ouvert en 2013 une enquête sur les exactions commises au Mali par les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. L'audience de confirmation des charges a été fixée au 18 janvier, étape de la procédure durant laquelle la procureure doit convaincre les juges que son dossier est assez solide pour mener à un procès.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
70e Assemblée générale de l'ONU à New York, au programme ce mercredi notamment un sommet sur la paix et la sécurité dans le monde. Les détails avec notre envoyée spéciale Tatiana Mosso. Tatiana, bonjour.
Bonjour, le premier événement du jour dans le ciel ici à New York, vert, blanc, rouge et noir. Les couleurs du drapeau de la Palestine flottent désormais devant le siège de l'ONU. Une résolution allant dans ce sens a été adoptée par 119 voix. Puis pour et 8 contre et 45 abstentions. C'est l'événement qui vient juste de se terminer au moment où nous parlons. Les États-Unis et Israël ont voté contre la résolution. De leur côté, les Européens y sont allés en ordre dispersé après avoir pourtant cherché à trouver une position commune. L'autre événement de ce mercredi, c'était une réunion avec des ministres des Affaires étrangères. Vous l'avez dit, cette réunion a débuté ce matin dans la chambre du Conseil de sécurité de l'ONU. Une fois de plus, le terrorisme et les conflits internationaux étaient au menu. avec spécifiquement la circulation des armes concernant notamment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a dénoncé une lenteur de la communauté internationale à faire face à la menace terroriste, faisant notamment référence à la situation que vit son pays, le Tchad, ainsi que toute la région.
Merci beaucoup Tatiana Mosso pour toutes ces précisions directes de New York.
Et en Chine, 7 personnes ont été tuées, 50 blessées.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco vous est présentée ce soir par Anastasie Toudiech.
Après l'extension du port autonome d'Abidjan, le groupe de BTP chinois CHEC développera et aménagera le PK24, la nouvelle zone industrielle d'Abidjan. L'accord entre l'État ivoirien et CHEC porte sur 200 hectares et sera signé dans les prochaines semaines pour un montant de 60 milliards de francs CFA d'investissement de la part de CHEC, d'après les autorités du groupe. Le PK24 devrait notamment accueillir la nouvelle brasserie franco-hollandaise Brassivoire, ainsi que des industriels chinois. IPAE, le fonds d'investissement de Jean-Michel Severino, l'ancien président de l'AFD, a acquis 35% du capital d'Enval Laboratoire, PME ivoirienne de 40 employés fondée en 2012 et spécialisée dans les analyses physico-chimiques et microbiologiques. Cette opération devrait notamment permettre de doubler le nombre d'employés de la société. Au Ghana, IPAE est participant minoritaire de PEG Africa, une PME qui distribue des panneaux solaires depuis 2013 et compte 87 employés. L'objectif de PEG Africa, convertir 500 000 foyers ruraux africains à l'énergie solaire d'ici 5 ans. Le fonds IPAE est dédié aux PME ayant des besoins de financement compris entre 300 000 et 1,5 million d'euros. Une vingtaine d'entreprises sur le continent sont à ce jour concernées et d'ici à 2017, 5 à 8 investissements supplémentaires en Afrique de l'Ouest devraient avoir lieu. Le rapport mondial sur la compétitivité 2015-2016 vient de paraître. La Suisse est pour la 7e fois consécutive le premier pays, devant Singapour et les USA. Les 3 premiers pays du top 10 africain sont l'île Maurice, 46e mondial devant l'Afrique du Sud, 49e mondial et le Rwanda, 58e mondial. La Côte d'Ivoire, seul pays francophone du top 10, arrive en 8e place.
Merci Anastasie pour la Minute Éco.
C'est votre moment des sports. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
D'abord, Afrobasket 2015 à Yaoundé repose ce mercredi pour les dames.
Égypte, Cameroun, Mozambique, Nigeria, Gabon, Angola et Sénégal, Mali. Telles sont les affiches des quarts de finale demain du championnat d'Afrique des nations féminins qui se déroule à Yaoundé. Compte rendu de l'envoyé spécial de VOA Afrique au Cameroun, Amdinsi.
Après 5 journées âprement disputées, on connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la grande messe du basketball continental. Il s'agit du Cameroun, le Mali, le Mozambique, le Gabon, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte. Retenez que le Cameroun est la seule équipe invaincue de cette première phase. Les Lions indomptables ont réalisé un parcours sans faute en balayant tout sur leur passage. Après le premier tour, place au quart de finale. Il faut dire que les amateurs de la balle orange seront gâtés car ils auront droit à des affiches de rêve lors de ces quarts de finale prévus ce jeudi au Palais des Sports de Yaoundé avec le derby de l'Afrique de l'Ouest qui va mettre aux prises le Sénégal et le Mali. L'Égypte ira à l'assaut du Cameroun. Le Gabon affrontera l'Angola. Le Mozambique fera face au Nigeria. Des rencontres palpitantes en perspective. Amédine Yaoundé, VO Afrique.
Et Nico, la Ligue des Champions, suite de la deuxième journée.
À suivre les matchs Astana-Galatasaray, le Benfica en déplacement chez l'Atlético à Madrid, Manchester City qui se déplace en Allemagne contre Mönchengladbach, le choc Juventus de Turin contre le FC Séville, le Paris Saint-Germain en déplacement chez le Shakhtar Donetsk, le Real de Madrid ira à Malmö en Suède, Manchester United qui accueille les Allemands de Wolfsburg, enfin le CSKA à Moscou qui reçoit le PSV Eindhoven.
Enfin, regard sur la NBA, les malheurs de Derrick Rose persistent, Nico.
Et oui, puisque le joueur vedette des Chicago Bulls a été blessé au visage lors du premier entraînement de son équipe, il va subir une intervention chirurgicale, c'est ce qu'a annoncé la franchise NBA. Derrick Rose a reçu un coup de coude dans le visage durant l'entraînement. Il a été transporté.
Merci, Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Au Burkina Faso, la crise semble se dénouer après que l'armée loyaliste ait repris ce mercredi le contrôle de la situation dans la capitale au lendemain de son assaut éclair contre la caserne des ex-putschistes de la garde présidentielle. À Ouagadougou, c'est un soulagement, mais la population semble toujours inquiète. Pour une analyse, VOA Afrique a joint dans la capitale burkinabé Kidoulaye Corentin, directeur du Centre de recherche géopolitique et des études stratégiques.
Ici, à Ouagadougou, tout le monde estime que c'est effectivement le dénouement de la crise. C'est un grand sentiment de soulagement pour les Burkinabés. Je ne dis pas de joie parce que finalement, il n'y a pas eu de grands éclats de joie à Ouagadougou, mais un sentiment de soulagement tellement les gens étaient fatigués de cette crise. Mais aussi un grand sentiment d'achille finalement. Parce que voilà des groupes d'élite, entre guillemets, qui auraient pu servir à la nation, qui auraient pu positivement épauler les grandes transformations qui sont en train de se faire actuellement au Burkina Faso, s'ils avaient un tant soit peu écouté les conseils, les appels, les injonctions que lui adressait le peuple, que lui adressaient les autres.
Le RSP a été dissous par un décret présidentiel. Il y aura un redéploiement. Pensez-vous si la réintégration des éléments du RSP dans d'autres unités de l'armée va être facile pour s'assurer de la cohésion?
Les chiffres cités le plus souvent sont autour de 1300 personnes. Sur une armée de 8000 hommes, le redéploiement peut se faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les autres corps de l'armée, vous avez les mêmes compétences qui sont là, qui sont déployées. Et donc, je pense que les éléments du RSP, chacun selon sa compétence, pourra sans doute trouver une place dans l'armée burkinabé. C'est vrai qu'une de leurs revendications était qu'ils continuent à travailler ensemble, toujours comme un corps.
Le coup d'État avorté a interrompu le processus électoral. Est-ce possible d'aller aux élections avant la fin de l'année? Quel travail devrait faire le gouvernement de transition pour assainir l'environnement?
La plupart des gens avec qui moi j'ai échangé estiment qu'il est impératif que le Burkina Faso puisse aller de l'avant et s'ancrer définitivement dans la démocratie. Il y a une possibilité d'aller aux élections, il y a une possibilité d'organiser ces élections avant la fin de l'année. Ceci dépendra évidemment de la volonté des acteurs politiques et de la volonté des forces vives de la nation.
Kidoulaye Corentin, directeur du Centre de recherche géopolitique et des études stratégiques, joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Côte d'Ivoire, plus d'un millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu réparation dans le cadre d'un processus d'indemnisation débuté il y a 2 mois. L'opération connaît un engouement certain. Jean-Roger Bion a joint Maria Toukoné, directrice générale du Programme national de cohésion sociale, en charge de l'indemnisation des victimes.
Au titre de l'indemnisation, nous avons commencé avec 4500 personnes et aujourd'hui, l'indemnisation, je dirais, se porte bien parce que près du tiers a reçu réparation. Près du tiers des victimes a reçu réparation.
Est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été donné à ces gens qui ont subi les effets de la guerre?
Grosso modo, il y a plusieurs types de préjudices, mais nous avons commencé par les décès, c'est-à-dire atteinte à la vie, et puis atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont subi des blessures physiques et morales. Pour les personnes qui ont perdu la vie, leur famille, en tout cas leur ayant droit, reçoit reçoit 1 million de francs CFA par personne, c'est par personne décédée. Et puis pour les personnes blessées, c'est la prise en charge médicale et psychologique totale et intégrale jusqu'à guérison.
Alors il y avait deux camps opposés lors de la crise post-électorale. Est-ce que tous les camps ont été pris en compte, madame?
Nous faisons les réparations sans tenir compte de camps. La mort n'a pas de couleur, la victime n'a pas de couleur. Qu'on soit de tel bord politique ou de tel autre bord politique, ce n'est pas ça. Les victimes ne sont pas répertoriées en fonction de leur bord politique, mais en fonction des cas de décès, en fonction des cas de blessures, en fonction des cas de pillage, etc. etc. Et donc, toutes les personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire, civiles comme militaires, reçoivent réparation. Leurs ayants droit reçoivent réparation, sans tenir compte de la religion, ni du parti politique, ni de l'appartenance ethnique.
Alors, jusqu'à quelle période cette indemnisation va s'étendre?
Le processus de réparation a commencé, il va continuer jusqu'à ce que toutes les victimes reçoivent réparation sur le territoire national et même au-delà s'il y en a qui sont à l'extérieur.
Pensez-vous que cette opération va contribuer à l'apaisement à un mois de l'élection présidentielle?
Fortement contribuer à l'apaisement et ça a déjà commencé parce que des gens qui n'avaient aucun soutien, qui n'avaient aucun pilier, qui voient maintenant qu'ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde, regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau, c'est-à-dire par le président. Ils reçoivent compassion également de toute la nation, je pense que ça soulage les douleurs. Et aujourd'hui, il y a un engouement autour du processus de réparation des préjudices dus aux victimes qui fait que nous ne pouvons que saluer l'opération et nous espérons que ceux qui étaient encore réticents, qui avaient lancé des mots d'ordre demandant aux gens de ne pas s'inscrire, que ces personnes-là comprennent qu'il faut que tout le monde s'inscrive pour bénéficier du fonds spécial d'indemnisation pour les victimes. Parce que ça ne tient pas compte de camp, ça ne tient pas compte de couleur, ça ne tient pas compte de religion, ça ne tient pas compte de parti politique.
Maria Toukoné, directrice générale du programme ivoirien de cohésion sociale, était jointe à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste malien à comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il est accusé de destruction de 9 mausolées et d'une mosquée à Tombouctou. Le début de l'audience de confirmation des charges est fixé au 18 janvier. Pour une réaction, Idriss Fall, adjoint Aladji Touré, un habitant de Tombouctou.
Tout simplement, nous éprouvons vraiment un sentiment de soulagement. À Tombouctou, tous les Tomboktiens sont vraiment contents que du stade d'accusés et de prisonniers au Niger, ce djihadiste malien a été envoyé à La Haye pour pratiquement l'ouverture de son jugement aujourd'hui. Les Tomboktiens sont vraiment contents parce que nous avons tous regardé France 24, même si on ne nous a pas montré les images, mais nous avons vu en fil rouge l'ouverture de son procès au tribunal pénal de La Haye aux Pays-Bas. Nous sommes vraiment contents et nous pensons aussi que ça ne va pas se limiter uniquement à Abu Turab. Les autres sont dans la nature, ils sont présentement à Tombouctou, aux alentours de Tombouctou. Et nous pensons que les investigations vont être poussées pour appréhender ces djihadistes, pour que chacun réponde pratiquement de ces faits et gestes posés à Tombouctou au moment de l'occupation.
Ils n'avaient pas seulement détruit que des mausolées et mosquées, ils avaient lapidé des femmes, ils avaient coupé des mains.
Nous avons vécu ça à Tombouctou, effectivement, mais pratiquement, les gens qui avaient coupé les mains, les gens qui avaient détruit les mausolées, les gens qui ont profané même des tombes avec nous à Tombouctou, ils sont connus. Les Tomboktiens les connaissent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons que ces gens bénéficient pratiquement de certaines populations et personnes et des mots. Les Tomboktiens ont vraiment peur parce que ces gens sont parmi nous à Tombouctou présentement.
Et ceux qui avaient été arrêtés par l'État malien, certains d'entre eux aussi ont été relâchés, notamment ceux qui avaient contribué.
Effectivement, ceux qui avaient été arrêtés ont été pratiquement relâchés lors des fameux accords d'Alger. Parce que ces gens ont mis sur la table tout simplement les libérations immédiates. Ils ont été libérés. Libérés à partir pratiquement de Bamako, acheminés par des avions de l'aménagement à Gao, à Tombouctou, un peu partout en République du Mali, et personne ne trouve quelque chose à dire.
Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la paix sans la justice?
Non, il n'y a pas de paix sans justice. Juger d'abord, c'est comprendre. Parce que quand les gens qui sont coupables des faits, et si on vit de tout le monde, si ces mêmes gens sont arrêtés et libérés encore, perdraient pratiquement les sentiments des citoyens, ça nous poser des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que l'État malien a les pieds et les mains liées.
Aladji Touré, un habitant de Tombouctou, au Mali.
En République démocratique du Congo, la démission du gouverneur de province du Katanga, Moïse Katumbi, du parti au pouvoir, continue de faire des vagues, bien que le PPRD, parti du président Joseph Kabila, parle d'un non-événement. Pour une réaction, Eddy Issango a joint le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kuyungu Wakumwanza, que nous essayerons éventuellement d'avoir plus tard.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York, à l'heure où les crises se répètent en Afrique, notamment en Centrafrique et au Burkina Faso. Une assemblée qui a accueilli le pape François en marge de son périple américain. Cette assemblée de l'ONU sera-t-elle encore une fois beaucoup de discours et peu de décisions, comme le disent certains? Et que pensez-vous aussi de la récente visite du pape aux États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU, en direct de New York.
Je vous le disais, en République démocratique du Congo, la démission du gouverneur de province du Katanga, Moïse Katumbi, du parti au pouvoir, continue de faire des vagues, bien que le PPRD, le parti du président Joseph Kabila, lui parle d'un non-événement. Pour une réaction, Eddy Issango a joint le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kiyungu Wakumwanza.
C'est du moment où certains commencent même à penser à tripatrier, à revoir la Constitution, là, ça nous inquiète. D'abord, je lui rends hommage en tant que membre du G7. Je lui rends un vibrant hommage parce qu'il a démontré combien il est un homme de parole, un homme sérieux, parce que c'est vraiment le même point de vue de G7. Deuxièmement, effectivement, il a constaté que dans les cas de la majorité, il n'y a pas l'honnêteté. C'est une sorte de malice, mensonge et hypocrisie. Voilà pourquoi il a trouvé que ce n'était pas un milieu où il pouvait rester.
Monsieur Moïse est resté ambigu quant à une probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est pour se présenter ou pour confirmer une candidature à l'élection à la présidentielle?
Non, pas nécessairement. Concrètement, nous voulons dire au niveau de G7 que jamais la majorité ne s'est prononcée pour l'alternance, c'est-à-dire le changement des hommes qui sont en place, remplacés par les autres et par le système électoral. Par contre, il se trouve des hommes divers, des hommes providentiels.
Vous accusez les autres membres du pouvoir d'entretenir un flou quant aux élections. Est-ce que ce n'est pas le cas avec vous? Quelle est votre position par rapport à ces élections? Est-ce que vous ne vous positionnez pas vous-même déjà pour être candidat? Quand je dis vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous avez un candidat pour les G7 à la prochaine élection?
Je pouvais avoir l'idée d'avoir un candidat. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est le respect de ce que notre Constitution, que nous avons nous-mêmes adopté tous, c'est ça que nous voulons. Nous voulons qu'on respecte cette Constitution, qu'il y ait, qu'on accepte qu'il y ait l'alternance politique. Ce n'est pas parce que nous avons un candidat à présenter, alors que c'est notre droit. Mais ce que nous voulons est que les règles du jeu soient respectées.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Restez avec nous pour les infos dans un instant.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.